Bonjour tout le monde. Ça va bien? Good. Ça va mieux, pas de masque? C'est correct, ça. La semaine dernière, on a pris le temps de regarder que le plan final de Dieu pour la souffrance est beaucoup plus grand et beaucoup plus complet que tout ce que l'être humain pourrait accomplir par lui-même. Vous vous souvenez de ça? On avait pris le temps de regarder à quel point la solution que Dieu voulait donner au final pour la souffrance, la réponse que Dieu voulait donner par rapport au mal, à la souffrance, elle est infiniment plus complète et totale que tout ce que l'être humain peut faire, même essaie de faire. On a vu qu'il y en a, des êtres humains qui essayent de faire quelque chose. Ouais, il y a toutes sortes de courants de pensée, il y a toutes sortes de solutions, il y a toutes sortes de moyens, il y a toutes sortes de choses qui sont mises de l'avant par les hommes dans le but de diminuer les injustices, dans le but de diminuer la souffrance, dans le but de diminuer le mal dans le monde. Mais tous ces efforts-là, ils ont leurs limites. Parce que pour réellement régler le problème du mal, il faut aller dans une sphère où est-ce que l'homme n'a aucune autorité et n'a aucun pouvoir. Donc, c'est impossible pour l'homme de faire quelque chose. Il y a un commentateur qui dit ceci, c'est Dostoïevski, une affaire de même. Dostoïevski, quelque chose de même. Il dit ceci, « Je suis convaincu, comme un enfant, que la souffrance disparaîtra. Que la comédie révoltante des contradictions humaines s'évanouira comme un piteux mirage, comme la manifestation vile de l'impuissance mesquine qu'à la fin du drame, quand apparaîtra l'harmonie éternelle, une révélation se produira, précieuse au point d'attendrir tous les cœurs, de calmer toutes les indignations, de racheter tous les crimes et le sang versé, de sorte qu'on pourra non seulement pardonner, mais justifier tout ce qui s'est passé sur la terre. La solution de Dieu sera complète et satisfaisante en tout point. » Et cette vérité-là nous donne beaucoup de patience face à toutes ces situations-là. À chaque semaine, il y en a qui se rajoutent au quotidien dans nos vies. On est exposé, on entend, on voit, même on vit les conséquences de la présence du mal dans nos vies. Mais tout ça mis ensemble, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, quand on va voir le plan de Dieu, quand on va voir Dieu le mettre en œuvre et donner son jugement, ben tout ça, tout ça va être éclipsé. Et tout ça, on va voir le cœur de Dieu face à tout ça dans toute son ampleur. Et ça va nous emmener dans la louange, dans la reconnaissance, que le plan de Dieu est beaucoup plus sage que ce que nous autres, en tant qu'êtres humains, on pourrait même imaginer. Dans ce plan-là que Dieu a mis en place, la chose qui chatouille l'être humain, qui dérange l'être humain pendant qu'ils sont sur la terre et qu'ils ne voient pas clair d'une certaine façon, qu'on ne voit pas Dieu tel qu'il est, sans filtre, un jour on va le voir comme ça, le jour où on va être devant lui. Mais en attendant, ce qui chatouille l'être humain, c'est de voir que le seul moyen de faire partie de ceux qui ne seront pas détruits avec le jugement final, de faire partie de ceux qui vont être restaurés, c'est Jésus-Christ. Ça dérange l'être humain que Jésus-Christ soit la solution, le seul chemin pour eux-mêmes être libérés ultimement de tout ce mal-là et de faire partie de ceux qui vont être restaurés. L'être humain préfère la pensée qu'ils font partie d'un tout, que le jour où ils vont s'éteindre, ils vont s'en aller rejoindre l'unité, l'énergie, l'être céleste ou quoi que ce soit. Des philosophies qui présentent des solutions comme ça, il y en a plein. Et l'être humain préfère des pensées comme ça où est-ce que leur individualité, ce qu'ils sont, va s'estomper, va s'évanouir parmi le grand commun. Il n'y a pas d'individualité dans ça. Dieu nous a créés comme un individu. Et Dieu nous désire nous restaurer comme un individu également. Donc, en rejetant Jésus-Christ, les êtres humains rejettent que Jésus-Christ est le chemin et la solution. Ils vont se tourner vers toutes sortes de philosophies qui, au final, pour l'être humain, est beaucoup moins avantageuse que celle que Jésus-Christ propose. D'un point de vue juste rationnel, là. Même point de vue rationnel, le rejet de Jésus-Christ, le rejet de Dieu, ne fait pas de sens. Et l'être humain va s'en aller dans toutes sortes de philosophies qui sont moindres, dans toutes sortes de finalités qui ne font pas de sens, dans le but de quoi? De refuser que Jésus-Christ est la solution et le chemin. Mais ça nous amène à se poser cette question-là. On parle beaucoup depuis le début de Dieu, de son existence, qu'il y a toutes sortes de choses qui prouvent son existence, on démontre que la solution que Dieu apporte est plus grande que celle de l'homme. On met plein de choses de l'avant comme ça, c'est toutes sortes de pensées philosophiques, c'est toutes sortes de pensées de réflexion profonde qui ont des impacts concrets dans notre vie, dans la façon dont on va la vivre. Mais au final, pourquoi Jésus-Christ est le chemin? En quoi Jésus-Christ va venir faire la différence dans la situation par rapport au mal, par rapport à la condamnation, au jugement final, à la destruction de la terre puis à la restauration que Dieu nous a promis? Est-ce que Dieu pourrait le faire sans Jésus-Christ? Il est Dieu. Ça serait bien moins compliqué de juste claquer du doigt puis que ça se produise. Pourquoi ça prend Jésus-Christ? De quelle façon les Écritures vont répondre à cette question-là? Vous allez dire, ben lilas, c'est partout. Ah, OK. Ça va prendre la semaine, oui. J'aimerais qu'on aille dans Apocalypse 5 ensemble. Il faut... Des fois, j'aime réfléchir à un niveau différent, peut-être. Mais en tout cas, j'espère pas vous mêler ce matin, mais vous apporter un éclaircissement puis une réponse à tout ça. Parce que c'est une question que le monde se pose. En quoi Jésus vient faire la différence? Pourquoi c'est nécessaire, Jésus? Pourquoi c'est comme ça que ça marche? Comprenez? C'est d'où ça vient, ça? Pourquoi? Si le Seigneur n'a pas toute autorité, pourquoi qu'il ne fait pas juste ça, comme ça? C'est intéressant de penser à ce niveau-là parce que ça nous fait prendre conscience qu'en tant qu'être humain, il y a un paquet d'affaires qui se passent sans qu'on en soit réellement conscient. Il y a tout un ordre, une façon de fonctionner, tout qu'un monde, un univers en soi que l'être humain, on ne comprend pas, on ne voit pas et on n'en a que des brides. Et dans les Écritures, il y a plusieurs endroits comme ça où est-ce qu'on tombe sur des passages qu'on a de la misère à comprendre. C'est quoi ça le conseil de Dieu? Est-ce que Dieu a besoin d'un conseil? C'est qui ça le conseil de Dieu? Comment ça Satan s'est présenté devant Dieu pour réclamer Job? Puis venir accuser Dieu qui fait du favoritisme. Comment ça Satan a pu faire ça? Il y a toutes sortes de questions, il y a toutes sortes de choses qui sont soulevés dans certains passages qui ne cadrent pas des fois dans la vision qu'on a du monde spirituel. C'est comme si, à travers le temps, il y a des conceptions communes du monde spirituel, des connaissances que l'être humain avait de cet univers-là, qui se sont perdues à travers les millénaires. Ce qui fait que quand on lit certains passages, nous, aujourd'hui, on a de la misère à les recadrer. Parce que, justement, on n'a pas tout le temps tout le cadre en arrière. Et ça vient pas discréditer en rien, OK, l'existence de Dieu et tout ce qu'il a établi. Au contraire, ça nous garde en tant qu'être humain dans l'humilité, constamment. Et dans l'idée que Dieu est beaucoup plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Dieu a créé un ordre, a créé dans sa création, dans tout ce qu'il a fait, il a créé une façon de fonctionner. Et lui-même, en tant que Dieu, a pris la décision de se soumettre à ces décrets-là. Il a établi des choses et il a dit, ça va fonctionner comme ça, voici. Et moi-même, je vais respecter ces décrets-là. C'est quand même intéressant de penser et de voir ces choses-là. Dans Apocalypse 5, voici ce qu'il nous est dit sur Jésus-Christ. « Puis je vis la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, quand même intéressant, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Non seulement il ne pouvait pas l'ouvrir, mais il ne pouvait pas le regarder. » Tout qu'un livre, là. C'est très intéressant. C'est quoi ce livre-là? Ben, les commentateurs et les spécialistes, ce qu'ils disent, c'est que ce livre représente le sens et le but de l'histoire. Le grand plan de Dieu pour tous les temps. Ce livre-là contient le plan de Dieu lui-même. La sagesse de Dieu se trouve écrite dans ce livre-là. Et Dieu est tellement grand, tellement saint, tellement puissant que personne n'est digne de l'ouvrir et de tout savoir le plan de Dieu pour qu'il s'exécute et de le regarder. Quand même intéressant. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Donc, il y a une tristesse de la part de Jean qui constate ça, qui dit, qu'est-ce qui se passe? Personne n'est digne de l'ouvrir. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. A vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé, qui semblait égorgé, avoir été sacrifié. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il y a toujours des symboles dans les Écritures. Notre but, c'est pas de décortiquer toute l'Apocalypse. Il y a plusieurs choses dans ce passage-là que je prendrai pas le temps d'expliquer ce matin. Mais les cornes représentent, c'est un symbole de puissance. Et les yeux, c'est un symbole de connaissance. Et le chiffre 7 représente la perfection, la totalité. Donc, on a un agneau là qui est tout puissant. Il y a sept cornes, la totalité, la puissance, la perfection. Donc, il est puissant à la perfection. Et la connaissance, les yeux. Donc, il est connaissant à la perfection également. Intéressant, hein? Et dans la totalité. Verset 7, « Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Quand il reçut le livre, les quatre êtres vivants, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été sacrifié, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau a été immolé, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, et ceux qui s'y trouvent, je les entendis, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange d'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Quelque chose, hein? Pourquoi Jésus-Christ est le chemin? Parce qu'il est digne. Parce qu'il est le seul qui est digne de pouvoir prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ce livre-là, qu'on n'était même pas que les êtres humains dans le ciel sont même pas capables, les êtres sont même pas capables de le regarder tellement qu'il est puissant, tellement qu'il brille, tellement qu'il est important. Puis Jésus-Christ est capable d'aller le prendre, d'ouvrir les sceaux. Et on voit quand Jésus ouvre les sceaux dans les chapitres qui viennent, ça l'envoie des calamités sur le monde, ça l'envoie le jugement pour le mal s'exécute à travers l'ouverture des sceaux que l'agneau opère. Intéressant. Et l'élément qui fait qu'il est digne, c'est quoi dans le passage? Il a été immolé. Il a été immolé, et puis, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Il y a l'élément qui a été sacrifié, mais il y a l'élément aussi que ce sacrifice-là a fait quelque chose pour Dieu. Ce sacrifice-là a racheté pour Dieu. On va regarder ces éléments-là plus en détail ce matin. Apocalypse 5, pourquoi Jésus est digne? Car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu dans la version Sommeur. Égorgé, c'est immolé, il a été sacrifié. Et tu as racheté pour Dieu. De racheter, de restaurer pour Dieu, ça a été établi comme étant son désir et sa volonté au tout début dans la Genèse. Parce que l'Éternel aurait pu tout simplement tout détruire. Il aurait pu faire ça et recommencer à zéro. Ça aurait été légitime, il aurait eu le droit. Mais ce n'est pas le choix que Dieu a fait. Ce n'est pas ça qu'il a décidé. Il a décidé de racheter, de restaurer. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que sinon, le monde au complet serait détruit et l'humanité serait tout simplement plus là. Et Dieu aurait été en droit de le faire. Parce que Dieu est un Dieu juste, est un Dieu qui est saint. Et quand le mal est présent, s'installe, il doit y avoir jugement. Comprenez? Ça fait partie de la nature même de Dieu. Et les décrets que Dieu a établis prennent source, prennent nature en lui-même. Donc, la façon que tout fonctionne ne vient pas contredire la personne de Dieu. Au contraire, ça en est simplement une démonstration de la façon dont Dieu fonctionne. C'est important que je parle de ces choses-là, puis on va le voir encore plus en détail tantôt. Pourquoi je vous emmène à ce niveau-là, au niveau de la pensée puis de la réflexion. C'est très important. OK? Donc, car tu as été égorgé, tu as racheté pour Dieu. Cela veut dire que sans le passage de la croix sur Jésus, aucune rédemption possible pour nous. Personne n'aurait été digne d'ouvrir les seaux qui mènent vers la restauration de tout, vers la fin définitive du mal et de tout ce qu'il amène, entre autres la mort. Si personne n'aurait été capable d'ouvrir ce seau-là, il n'y aurait pas eu de restauration. Il n'y aurait pas eu de jugement sur la mort. Le fait que Jésus est venu et qu'il a fait ça, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. La venue de Jésus a agi à des niveaux, pas juste terrestres, de nous racheter, mais à travers ce que Jésus a fait, c'est comme s'il y a eu une démonstration ultime de quelque chose. OK? Il a vaincu le mal. Il a vaincu le mal. Puis, c'est important de bien le voir. La croix est une démonstration à l'humanité et aussi au monde spirituel du but ultime du mal. Ici, le mal a agi sans avoir le droit de le faire. OK? Il y a des lois, il y a des principes qui sont établis. OK? Quand Adam et Ève y ont péché, OK? Ils ont été condamnés. Ils ont péché. Il doit y avoir des conséquences. Comme quand Satan s'est révolté contre Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a chassé. Il y a eu des conséquences. Satan s'est attaqué à la création de Dieu, aux prémices de la création de Dieu. Il est allé voir l'homme. Et il a manipulé l'homme pour que l'homme prenne la même décision que lui a faite. S'est rebellé contre Dieu. A décidé que Dieu n'était plus en autorité, mais que eux le devenaient. Donc, Dieu s'est retrouvé dans une situation où est-ce que, si il est juste et bon, il doit agir envers l'homme comme il a agi envers Satan. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a chassé l'être humain du jardin d'Éden. Les conséquences du péché sont rentrées dans le monde. Et la mort, maintenant, est introduite. L'être humain ne vivait plus éternellement en la présence de Dieu dans le jardin. Quand la mort réclame son dû, elle fait une demande légitime. C'est la justice. Ce que la mort réclame, son dû, le paiement de l'offense qui a été faite à Dieu, c'est légitime. Parce que l'être humain, il est coupable de rébellion contre Dieu. Comprenez? Mais quand la mort a réclamé Jésus-Christ. Est-ce que c'était une demande légitime? Absolument pas. Parce que Jésus-Christ était juste. Jésus-Christ était innocent. Non seulement il y a la façon dont il est mort, mais il y a simplement le fait qu'il est mort. Comprenez? Et le simple fait qu'il soit mort, premièrement, n'est pas légitime. Comprenez? Parce qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle il meurt. Parce que les conséquences de la mort, les conséquences du péché ne pouvaient pas s'appliquer à lui. Il a été tenté en tout point comme l'être humain. Et il n'a jamais péché. Imaginez la grandeur de cet exploit-là. C'est phénoménal. Et Jésus l'a fait. Et quand la mort est venue réclamer Jésus, elle n'avait pas le droit de le faire. Et c'est intéressant parce que quand on regarde dans Jean 14, 30, Jésus dit ceci. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous. C'est Jésus qui parle à ses disciples vers la fin de son ministère. Car le dominateur de ce monde vient. Il dit, je ne pourrai plus m'entretenir avec vous parce que Satan s'en vient. Ce n'est pas qu'il y ait une prise sur moi. Il est en train, juste cette petite phrase-là, là. Ce n'est pas qu'il y ait une prise sur moi. Satan n'avait pas de prise sur Jésus parce qu'il était parfait. OK? Juste cette petite phrase-là, de la part de Jésus lui-même, vient nous ouvrir les yeux sur ça. Satan n'avait aucun droit sur Jésus, mais s'est prouvé coupable devant tous en prenant quand même la vie de Jésus. C'est comme si, à travers Satan, là, à travers ce qu'il a fait, là, il a démontré à tout le monde, autant dans le monde spirituel, dans le monde physique, quel était son but ultime. Il est venu prouver et démontrer qu'il n'était pas juste. Satan, c'est l'accusateur. Pensez-vous pas que Satan a fait des accusations envers Dieu dans le ciel? On connaît pas toute l'histoire. OK? On va en découvrir au ciel. Mais si Satan est accusateur, pensez-vous pas que Jésus, que Dieu, a échappé à ses accusations? Moi, je suis convaincu que Satan l'a fait. Juste avec Job. On le voit, là. Oui, Jean-Claude. C'est ça, la victoire de la croix. Appartenait pas. Il a pris une vie qui ne lui appartenait pas. Donc, à cause qu'il a fait ça, il a fait la démonstration à tout le monde, être humain, être spirituel, qu'il n'était pas juste et bon et que les accusations qu'il faisait de Dieu ne tenaient pas la route. Et dans le contraire, Dieu s'est montré juste, fidèle à lui-même jusqu'au bout, dans tout l'ordre qu'il avait établi. Donc, Dieu a prouvé qu'il ne se dénaturait pas, que les accusations que Satan avait envers lui ne tiennent pas la route. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. C'est de voir ça comme ça, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi Jésus est le chemin? Pourquoi il est digne d'ouvrir le sceau? Parce qu'il a vaincu. Il a fait ce que aucun être humain a fait. Il a vaincu la mort parce que la mort n'avait pas de prise sur lui et elle est venue chercher sa vie quand même. Et là, Satan s'est accusé lui-même. L'accusateur est devenu celui qui est accusé. Et la démonstration était faite. C'est comme une cour. C'est comme un procès en réalité. C'est exactement ça. Et l'humanité est la preuve. L'histoire dans l'humanité est la preuve de dire, c'est qui a raison? C'est-tu Dieu ou c'est Satan? C'est qui qu'on devrait suivre? C'est qui a la solution? C'est qui est réellement le maître? Satan a accusé Dieu. Il y a eu des conséquences. Et Satan a essayé d'utiliser l'être humain pour prouver que Dieu avait tort. Et il a échoué à cause de Jésus-Christ. Il a fait une erreur. Il est venu chercher la vie de Jésus. Et en faisant ça, il a démontré son cœur, il a démontré son intention, il a démontré sa fourberie, sa haine. Et il a perdu à cause de cette démonstration-là. Le mal avait raison de prendre Adam et Ève parce qu'ils avaient désobéi, ils avaient échoué. Donc la réclamation de Satan était légitime. Dieu aurait pu tout détruire à ce moment-là avec Adam et Ève, mais il a décidé de restaurer. Et pour ce faire, il a dû prendre un chemin qui permet la restauration. Parce que Dieu a décidé de ne pas tout détruire, il a dû prendre le chemin qui vient démontrer que la justification, que la restauration est possible et elle va être juste. Il a le droit de restaurer. Et il a pris le chemin pour le démontrer puis pour l'exécuter tout en restant fidèle à lui-même, à ce qu'il avait établi, à l'ordre établi, qui prend nature dans, qui prend source dans sa propre nature. Dieu n'aurait pas respecté sa propre justice s'il avait décidé de nous restaurer tout de suite. Si Dieu aurait décidé de restaurer, je suis Dieu, je peux faire ce que je veux, puis je restaure. Il n'aurait plus été juste et les accusations de Satan auraient été probablement légitimes quelque part. Dieu aurait échoué. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé parce que Dieu est Dieu. Cet agneau maintenant blessé injustement ouvre les sceaux et prononce les jugements à l'encontre des forces des ténèbres parce qu'il a vaincu. Au moment où Jésus est mort sur la croix, dans Colossiens 2:15, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle après sa victoire à la croix. Colossiens 2:15. Il a désarmer toute autorité, tout pouvoir, en les donnant publiquement en spectacle. Il y a une démonstration qui a été faite à la croix, qui est venue désarmer, discréditer toutes ces autorités-là, tous ces pouvoirs-là et toutes ces dominations-là. Jésus à la croix a souffert. Il a été abandonné, trahi et renié par ses amis. Il a été livré à une foule déchaînée. Il a eu droit à un procès truqué. On l'a torturé et exécuté injustement. La liste des péchés et des malveillances commis à son égard est longue. Lâcheté, mensonge, intérêt personnel, nationalisme et racisme, institutions religieuses et politiques corrompues, avec la puissance même de Satan derrière tout ça, comme on voit dans Jean 13, 27. La croix était la pire chose qui ait pu accomplir le mal humain et non humain, ainsi que la rébellion contre Dieu. La croix, ce n'est pas une simple démonstration. C'est toute qu'une démonstration de l'ampleur de la cruauté de Satan, de l'ampleur du mal dont est capable l'être humain. À cause de cette séparation-là qu'il y a de Dieu, à cause de ce rejet-là que Dieu a fait, que l'être humain a fait de Dieu, cette rébellion-là, la croix est la démonstration, le point culminant de cette haine-là, de ce rejet-là de Dieu. Quand on regarde les évangiles, tout ce que Jésus a fait, à quel point il a démontré qu'il était bon, à quel point il a démontré qu'il était amour, à quel point il a démontré qu'il voulait du bien, qui voulait restaurer ce qui avait été brisé. Et il l'a dit qu'il était lui-même Dieu venu sur la terre. Malgré toutes ces évidences-là, les êtres humains l'ont pris et l'ont crucifié. C'est une démonstration du summum. Parce qu'il était pleinement injuste et on a condamné quelqu'un qui était vraiment vraiment juste. Il a été condamné pareil. C'est une des choses que l'être humain déteste le plus dans le système de la justice, puis même dans ce monde, que les coupables ne soient pas punis et aussi que les justes soient punis pour rien. Toute la cour, là, la justice, là, le but est de déterminer, l'as-tu vraiment fait ou tu ne l'as pas vraiment fait? Puis on veut tellement pas t'accuser sans vraiment être sûr que tu ne l'as pas fait. Là. On ne veut pas t'accuser pour rien. Là. D'un coup que tu serais innocent, là, ben, on va se mettre plein de lois qui va te protéger, qui va nous empêcher de te donner une condamnation sans qu'on soit sûr, hors de tout doute, que tu sois coupable. C'est dans le désir profond de l'être humain, c'est normal et c'est logique pour l'être humain de voir ça comme ça et de faire attention de ne pas condamner quelqu'un qui est juste. Mais ici, on l'a fait à quelqu'un qui était 100%, 100%, 100%, trois fois saint, juste en tout point. Il n'y avait pas plus juste que Jésus. Il n'y en aura jamais d'autre non plus. Il a quand même été condamné. Et c'est là qu'on voit la méchanceté de l'être humain, là où est-ce que ça nous mène. Et la démonstration en a été faite. Il n'y a plus d'argument possible. Le mal a été prouvé coupable et a été vaincu. Il a démontré à tous son plan ultime, son but, que ses accusations n'étaient pas légitimes, qu'il est celui qui n'est pas juste et honnête. Il est donc lui-même condamnable. La mort n'a donc pas pu garder Jésus puisqu'il n'était pas coupable. L'autre chose, la substitution. Il a subi la condamnation du mal au prix et a pris notre place. L'autre chose pour laquelle Jésus est digne, on a vu, hein, c'est parce qu'il a racheté. Il a racheté. Dieu a mis en place un système. OK? Il a décidé, là. C'est lui qui l'a décidé, là. Il a dit qu'une victime innocente peut subir à la place de celui qui est coupable la condamnation, le jugement. Prendre la place d'un autre. Et de faire ça, c'est une démonstration d'amour envers la personne qui devait subir la condamnation. OK? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Et ça, on le voit dès le début du péché. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué. Et il a pris la peau et il a habillé Adam et Ève. De celui qui a subi la conséquence, il prend et il recouvre celui qui était coupable. Et Dieu a instauré ce système-là au tout début. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen de pouvoir restaurer. Après la chute, Dieu a donné la loi à l'homme. Il a dit, voici, si vous voulez vous justifier, si vous voulez trouver le moyen d'être en relation avec moi puis de pas brûler avec toute la terre quand tout va être condamné puis fini puis mort, là, quand je vais avoir décidé que c'est la fin, si vous voulez pas brûler avec eux autres, je vais vous donner la chance de vous racheter, je vous donne ma loi. Vas-y, faites ça. Ils ont dit, on est capable, on va le faire. Merci Seigneur. On est béni que tu vives parmi nous. C'est-tu vraiment une bénédiction quand tu regardes la liste de tout ce qui est là-dessus? Hey boy! Point de vue humain, les autres peuples l'avaient bien plus facile. Et toutes leurs lois nourrissaient bien plus l'ego que celle du peuple de Dieu, là, à ceux à qui Dieu avait donné la loi. Pour l'être humain, c'était impossible de vivre comme ça. De respecter la loi de l'homme, c'était impossible parce que Dieu exige la perfection. La perfection. Donc, l'être humain a fait la démonstration que par lui-même, il n'était pas capable d'y arriver. Alors, la seule solution pour que ça se produise, que la justice soit faite, que quelqu'un puisse prendre la place de l'être humain, OK? Pour pas que toute l'humanité brûle à la fin des temps puis soit détruite, le seul moyen, c'était que quelqu'un vienne et vive une vie parfaite. Ça prenait Dieu lui-même pour venir et vivre cette vie parfaite-là pour qu'il devienne un agneau digne de prendre la place. Non seulement il était digne, mais il était tellement digne qui a été en mesure de prendre sur lui tous les péchés de l'humanité. La brebis prenait le péché dans l'Ancien Testament de la personne qui l'offrait. Oui, Puis il y avait tout qu'un ordre pour chacun des péchés. Il y avait quelque chose à la hauteur de la gravité, puis toutes ces affaires-là. Tout qu'un système. Mais là, Jésus était tellement digne que seul son sacrifice suffit pour les péchés de toute l'humanité. Puis il les couvrait, oui. Et là, Jésus, il est haute. On voit la hauteur de son sacrifice, à quel point il était digne. Et quand on voit ça, on voit aussi la hauteur de la haine, de l'offense de ceux qui l'ont sacrifié. C'est quelque chose de considérer ça comme ça, là. De voir tout ça à ce niveau-là. Dans les souffrances de Jésus, le mal... Donc, sans les souffrances de Jésus, le mal triomphe. Il en résulterait la destruction de toute la race humaine. Pas de restauration possible pour nous. Seule la souffrance de Jésus peut mettre fin à la nôtre, permettre le jugement et le renouvellement du monde sans avoir à nous détruire en même temps. Et Jésus a pris notre place. Il a joué ce rôle-là de substitut à notre place. L'offense a été payée. La justice a été rendue. Mais la victime devait être innocente. Il y a juste Jésus qui pouvait le faire. Il y a seulement Jésus qui était innocent. Il n'y a donc aucun autre chemin que par lui pour ne pas être détruit avec celui qui a été vaincu. Et quand on met tout ça en perspective, on veut, tous les êtres humains veulent la fin du mal, la fin de la souffrance, la fin des injustices. Tous les êtres humains veulent ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait partie de ce système-là. On est coupable. On fait partie des coupables. On fait partie de l'horreur. On joue un rôle actif. Les trois sources du mal qu'on a vues au début, c'était quoi? Vous souvenez-vous? Le mal naturel, moral, puis spirituel. Les démons, spirituels, le mal moral, l'être humain, sa moralité, et le mal naturel, c'est la nature là, qui a été corrompue, qui est affectée par le péché également. Ça inclut toute la souffrance qui est impersonnelle, qui est non méritée d'une certaine façon, puis qui est juste soudaine et présente, qui est aléatoire d'une certaine façon. Donc, on fait partie de la source du problème. Et c'est ça que l'être humain a de la misère à comprendre. Quand on veut comprendre que Jésus est le seul chemin, bien, il faut comprendre que par nous-mêmes, il n'y a pas de moyen d'être justifié. Il n'y a pas de moyen de justifier le fait qu'on n'a pas à être détruit lorsque Dieu va décider de mettre fin à la souffrance puis au mal. Parce qu'on fait partie du problème. Parce qu'on n'a pas réussi à répondre aux standards de Dieu. On fait partie du problème. Pourquoi Jésus le seul chemin? Parce que c'est le seul qui fait pas partie du problème. C'est ça que ça prenait. C'est le seul qui fait pas partie du problème. Et non seulement Dieu, dans son plan, il a pris l'arme la plus puissante de Satan, OK? Puis il l'a retournée contre lui. Parce que Satan était convaincu, il dit, je vais tuer Dieu. Et Dieu a pris la mort et il l'a retourné contre lui. Et ça, on a quelques minutes devant nous, ça me fait penser à quelque chose. Je vais aller ajuster le son en arrière. J'espère que ça va marcher. Qui illustre la sagesse là-dedans.
Je les aime gros. Et j'en lui donnais un peu de potion magique, Astérix.
Hey, sure. Lesquels de ces deux messieurs commencent? Ou les deux à la fois, peut-être, ya?
Laisse-le moi, comme ça je le finis tout de suite et puis on passe à l'épreuve suivante.
Oui, mais méfie-toi. Il doit y avoir un truc. Il est drôlement habillé.
Ouf, l'habit fait pour le druide.
Ah, les gros monsieur Tabor, ya?
Je suis pas gros.
Bien, bien, goûte. Les gros monsieur Tabor.
Bonjour.
Ce genre de lutte. Je n'avais jamais vu ça avant.
Ah, rien. J'ai appris en faisant un voyage. Un grand voyage très, très loin. Faut vouloir essayer, ya?
Oh, ya. Oui, pardon.
C'est très humble. Vous vous servez de la force de l'adversaire pour le vaincre. Plus l'adversaire il est fort, mieux ça marche.
Très simple, très simple. Vous dites ça parce que vous êtes très fort.
Nein, nein. Je vous assure. On va essayer. Vous prenez ma main. Vous mettez bien les pieds sur mon ventre et vous tirez en arrière. Ya, ya, très bien, good. Là, plus fort, ya.
Comme ça?
Ya, ya, c'est good. Ganz good, vous avez compris. Plus fort, plus vite, ya. Parfait, très bien, good, good, ya, 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 c'est good.
C'était bien, vraiment?
C'est good, mais peut-être encore un peu mou, nein? Good. Maintenant que je suis aplati sur les tapis, vous profitez que je suis étourdi. Et vous sautez sur moi, ya?
Comme ça?
Good. Schön. Vous prenez mon bras comme ça. Und vous tirez. Vous faites un nœud. Ganz gut. L'autre bras maintenant. Ja, excellent. Und maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les chats. La droite, tout de bas, la gauche, fantastique. Et là, voyez-vous, je ne peux plus bouger. Vous savez cogner, monsieur.
Eh non, c'est pas trop violent. En réalité, qu'est-ce que Astérix a fait? Il s'est servi de son adversaire pour le détruire lui-même. Il s'est servi de l'arme de son adversaire contre lui. Et c'est exactement ce que Dieu, ce que Jésus a fait. Il s'est servi de l'arme de Satan contre lui-même, contre Satan. À la croix, le mal s'est retourné contre lui-même. Comme Jean Calvin l'a exprimé, à la croix, la destruction a été détruite, le tourment tourmenté, la damnation damnée, l'abîme abîmé, l'enfer enferré, la mort morte, la mortalité immortelle. Immortelle, c'est ça. Donc, il s'est vraiment passé tout qu'un retournement dans l'ordre des choses. Henri Blocher a dit ceci, à la croix, le mal est vaincu par le mal. Le mal est vaincu comme mal. Le mal est vaincu comme mal parce que Dieu l'a retourné contre lui-même. Le Seigneur fait du crime suprême, de l'assassinat du seul juste, l'opération même qui a aboli le péché. La manœuvre est inouïe. On ne conçoit pas de victoire plus entière. Dieu piège le fourbe de ses propres ruses. Le mal, comme un judoka, profite de la force du bien qu'il pervertit. Le Seigneur, comme le champion suprême, riposte en utilisant la prise même de l'adversaire. Donc, la croix, c'est vraiment la démonstration de ça. Et la croix aussi est une démonstration d'amour extrême. est une démonstration totale opposée au mal, qui est l'amour. Dans Jean 15, 13, ça dit « Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. » Dieu utilise le mal ultime pour faire ressurgir, pour faire surgir son extrême opposé, le courage, la fidélité, le sacrifice désintéressé, le pardon. Les hommes ont commis l'acte ultime de rébellion contre son Créateur. Ils l'ont tué dans de terribles souffrances. Plus aucun doute, la rébellion de l'homme est totale. Et ça fait en sorte que l'amour qui a été manifesté à la croix n'a pas d'égal. Parce qu'il s'est fait sacrifier par ceux qui étaient venus sauver. C'est ceux qui a sacrifié, qui l'a sacrifié, qui était la raison d'être pour laquelle il faisait ce sacrifice-là. Et il n'y a pas de plus grande démonstration d'amour. Autant Satan, il n'y avait pas de plus grande démonstration de haine, puis autant Dieu, il n'y avait pas de plus grande démonstration de son amour. Les deux sont complètement opposés. Et les deux sont démontrés d'une façon totale et complète. Il n'y a pas de plus grande manifestation que ça. Ça va loin. Tous ces principes-là que souvent on prend pour acquis, la justification, la substitution, ah oui, la croix, oui, la démonstration d'amour de la croix, c'est beau, c'est touchant. Écoutez, là, ça prend une ampleur cosmique, cette affaire-là. C'est pas juste une petite affaire qui est arrivée dimanche soir, là, vendredi. C'est gros. C'est énorme. C'est la réponse à toute l'histoire de l'humanité et la réponse et la raison d'être de tout ce qui va se vivre dans l'éternité. Cette restauration-là que la souffrance de Jésus a rendue possible. Sans souffrance de Jésus, toutes ces démonstrations-là n'auraient pas pu avoir lieu. Comprenez? Dieu aurait dû se dénaturer lui-même pour arriver à ses fins. Il n'y avait pas d'autre chemin dans l'ordre établi par lui-même. Il n'y en avait pas d'autre. Oui, Yves.
Extraordinaire ce que tu expliques là. C'est ce qui... On apprend ces choses-là, on les remarche... Pour nous montrer à quel point nous sommes partis de l'erreur, comme tu as dit tout à l'heure, mais que si nous, on se rappelle très bien ce que tu viens de dire là, la croix, l'apogée de ce jugement-là et la solution, plus on va comprendre ça, moins on va être au lait, plus on va être au steak. Mm. Et puis là, nous, plus notre vie va être moins importante vis-à-vis de la grandeur de cet amour incalculable qui s'est manifesté là. Et notre vie sera plus centrée sur nous parce que c'est notre problème.
Oui, c'est le problème même du péché. Ça va recadrer complètement toute notre vie. Toute. Il n'y a pas un domaine ou un secteur qui ne sera pas affecté en comprenant davantage l'ampleur de tout ce qui est joué là. De tout ce qui est expliqué dans les Écritures et de tout ce que ça l'emmène. Le mal retourné contre lui-même, vaincu par l'extrême de l'amour dans l'accomplissement de la justice. Donc, il a vraiment accompli, il a vaincu le mal, il l'a retourné contre lui-même. Il a démontré son amour extrême en prenant notre place puis en le faisant quand même, en nous rachetant. Et la justice de Dieu a été accomplie à travers ça. Il n'y a plus d'angle sous lequel l'accusateur peut l'accuser parce qu'il a répondu à tout. Le plan de Dieu est maintenant justifié de A à Z parce qu'il a répondu à toutes les exigences. Il a fait la démonstration parfaite qu'il a le droit de le faire et de le mettre à exécution. L'accusateur est sans mots maintenant. C'est fait, c'est accompli, c'est prouvé hors de tout doute. C'est rassurant de savoir ça comme ça, de comprendre ça comme ça, et ça l'aide à recadrer pourquoi Jésus est le seul chemin. Pourquoi il n'y en a pas d'autre qui peut le faire? C'est impossible. Et tout ce qui s'est joué là, et on fait juste frôler la surface, ça va tellement plus en profondeur. Par la suite, en comprenant ça à ce niveau-là, on peut le descendre à nos vies, à nous personnellement, tous individuellement. De quelle façon mon quotidien est forgé par ces vérités-là? De quelle façon je vis, je parle, de quelle façon je donne cet amour-là qui m'a été donné? Je la comprends-tu, cet amour-là? Je comprends-tu que je la mérite pas, cet amour-là? Mais qu'elle m'a été donnée quand même. Parce que je fais partie de ceux qui l'ont crucifié, même si ça fait 2000 ans. Parce que je pêche. Et mon péché qui est fait aujourd'hui a été pris, a été placé sur lui à ce moment-là. Je participe. Comment qu'on vit avec ça? Comment vivre avec ça sans dès qu'on en prend conscience, de ne pas aller vers la repentance, puis en demandant pardon. Et c'est tout ça que ça l'amène, tout ça. J'aimerais prendre le temps de continuer à discuter avec vous. C'est le repas du Seigneur, on va le prendre dans quelques instants. Mais qu'est-ce que tout ça vous dit? Qu'est-ce qui vous touche dans tout ça? Quelles questions ça soulève? Quelle louange vous voulez apporter au Seigneur? Par rapport à toute cette vérité-là, j'aimerais vous entendre. Après qu'on prenne le repas du Seigneur ensemble. Oui.
Mm-hmm. Alors, on voit ici là, vraiment la perfection divine à travers la Trinité. Et
ouais.
Ça augmente notre connaissance de ce Dieu. Donc, on voit de ce fait sa bonté, son amour débordant.
Ah oui.
Qui a fait ça volontairement. Hein, ça nous amène à, premièrement, reconnaître toute forme de transgression envers Dieu, de lui avouer, de lui confesser et de lui demander son aide pour nous enlever sur lui,
ouais.
Pour grandir dans la sanctification. C'est le plan de Dieu pour tous ses enfants.
Puis la chose, dans ce que tu dis dans le passage que tu as donné dans Isaïe, on voit qu'il y a un plan. T'sais, on voit que ce n'est pas aléatoire. On voit que Dieu était conscient de la réalité, était conscient des faits, et puis il a dit, ça démontre son intention. Je veux vous sauver, je veux vous racheter, et je prévois quelque chose. Il ne laisse pas ça au hasard. Tu vois encore là l'intention de Dieu, son amour dans tout ça. Les souffrances sont présentes, mais ne sont pas là juste pour être, le plaisir d'être là. Et c'est même à travers ces souffrances-là que le monde a été racheté. Ça va loin. Et on voit, merci de ce que tu partages, Jean-Claude. Oui, Joanne. Oui, amen, merci. Robert.
Ça me fait penser à une prédication que j'avais entendue de Jacques Marcoux qui disait que le péché est tellement grave que ça mérite la mort éternelle. Et le péché, c'est tellement grave que la seule solution, c'était d'envoyer son fils sur la croix. C'est comme ça que tu peux être guéri, c'est comme ça que tu peux avoir la vie éternelle. Et par un seul sacrifice, Jésus passé, présent
et futur.
Et pas juste les miens, les péchés de nous tous, passé, présent, futur. Pas juste les miens, mais
la lumière.
Les générations passées, générations à venir, et tout ça a été accompli à la croix. Convaincu que je suis vu de ça parce que je pense souvent meilleur que les autres. Les chrétiens, ceux qui sont présents, sont des païens, tout ça, j'ai méprisé. Mais convaincu que je suis pas mieux que les autres. Je suis tellement plus proche de les autres que je suis proche de Dieu.
Amen. Oui.
Ça nous donne une chose. On a-tu hâte de rencontrer notre Dieu quand on voit l'amour qu'il a manifesté là. Quand on comprend Jésus-Christ a imputé sa justice à Yves Fernand et à tous ceux qui sont ici. Wow!
C'est phénoménal.
On a-tu hâte de rencontrer? Et là, on comprend c'est quoi, ben? Une pleine satisfaction dans la personne de Jésus-Christ, que notre joie soit dans la personne de Jésus-Christ, que sans cesse dans notre journée, on vit une souveraineté pleine et complète, comme Jean l'a dit. Vive sa présence. Merci Seigneur Jésus.
Amen. Oui, un jour, on va être là. On va l'expérimenter, on va le vivre. Au quotidien, oui, à Laurence. Va le prendre. Ouais. On est comme Adam et Ève qui essayent de se cacher par nos propres moyens. On essaie de cacher l'offense. C'était la réaction d'Adam et Ève. Ça a été ça. Je suis tout nu. Hein? Je vais me cacher. Je vais me couvrir. C'est ça qu'on essaie de faire avec le péché. Puis on voit à la lumière de ça, c'est de la folie, comme tu dis, Laurence, de se cacher, d'avoir peur d'aller devant Dieu, de s'humilier, de demander pardon, de recevoir son amour, de recevoir son pardon. On est fou de se priver de ça. On est fou de s'humilier. Puis souvent, on cache nos péchés parce qu'on a peur de quoi qu'on va avoir l'air. Hey, de quoi qu'on va avoir l'air si mes frères et sœurs savent qu'il y a du péché dans ma vie? Oh non! Est-ce qu'on devrait se surprendre d'avoir du péché dans nos vies? On devrait être surpris de ça? Absolument pas. On est tous dans le même bateau. On a tous reçu la même grâce, le même amour de Jésus-Christ et on n'a pas à se cacher. Oui. Oui, Brian, tu voulais dire quelque chose?
Moi, ce qui m'a frappé, c'est la nature du péché au début. Là. Pourquoi ça mérite la mort? Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui échoppent là-dessus.
Ouais.
Qui échoppent sur le fait que Dieu exige la mort, ou sa justice exige la mort face au péché. Mais tu l'as très bien expliqué, et je te félicite, là, c'est Satan a voulu amener l'homme avec lui dans la rébellion. C'est foncièrement ça. Le péché, c'est la
rébellion.
Et la rébellion contre qui? Contre la source de notre vie, contre la source de toute bonté, de toute lumière. C'est là qu'on voit la gravité. Puis l'orgueil de l'être humain, c'est de diminuer le péché. De dire, ben là, Dieu est complètement injuste, c'est ça, là, il tombe dans les accusations de Satan en diminuant, en amoindrissant la nature du péché. Mais c'est ça qui m'a frappé ce matin, c'est encore antique, là, mais ça m'a saisi. C'est que c'est une rébellion. Puis Satan a essayé d'amener Jésus aussi dans la rébellion.
Il
l'a tenté dans le désert. Son ultime, c'était tout simplement d'amener Jésus à se soustraire à la soumission à la volonté de Dieu pour sa vie. Tout simplement.
Ça prenait juste ça.
De n'importe quelle façon, il voulait amener Jésus à prendre une décision de lui-même, de par lui-même, sans se soumettre à Dieu. il l'a amené dans la rébellion. Puis là, ça aurait pu être une victime parfaite. Ça aurait complètement... Satan n'est pas fou. Il savait c'était quoi le plan de Dieu.
Ouais.
Mais quand il n'a pas réussi, là, sa haine était tellement forte envers Jésus, il n'a pas pu s'empêcher de
vouloir le tuer. Oui. Ouais. Sa haine était tellement forte. Il s'est fait prendre.
L'enjeu pour nous, c'est de se soumettre constamment. Se soumettre constamment à notre Père Céleste. De suivre, de marcher dans les traces de Jésus. Par amour. De suivre les traces du Fils de Dieu.
Oui. On pourrait prendre un temps dans la prière. S'il y a une ou deux personnes qui pourraient nous conduire dans la prière avant qu'on prenne les éléments.
Jésus, on a hâte de te rencontrer, être à tes pieds et d'être enseigné. On est, comme notre frère Étienne nous a dit, on a effleuré une partie de l'explication de ton amour. Mon âme, elle s'élève en pensant que pendant l'éternité, petit à petit, mon âme va être capable avec mon corps glorifié, de comprendre petit à petit qui tu es. Seigneur, on est émerveillé que tu as permis avant le commencement du monde que nous, qui faisions partie de cette horreur, ennemis, rebelles, tu nous as acceptés, justifiés, pardonnés à cause de Christ. Seigneur, on veut être des êtres. Des enfants reconnaissants ce matin. Pas simplement ce matin, mais après-midi. Pour le reste de la mission que tu nous donnes, peut-être. Tellement peu de comparer de ce que tu as fait. Merci, Seigneur Jésus. Merci, au Esprit Saint. Merci, Père, de l'avoir aimé à ce point.
Amen.
Ce strophe de chant Jésus seul, Dieu s'est fait chair, il s'est fait homme, pour quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui veulent sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis.
Pour réaliser la grandeur de ton sacrifice, Seigneur Jésus. Merci encore ce matin de réaliser tout ce que tu as fait pour nous. Mm. Tout ce que tu as fait, réaliser de plus en plus la grandeur de ton amour. Cet amour qui est inexprimable, mais que mon désir, c'est que tu le fasses ancrer de plus en plus dans mon cœur. Mm. De voir la grandeur de tout ce que tu as fait pour que je puisse être acceptée et avoir cette espérance vivante dans mon cœur. À toi la gloire, Seigneur Jésus.
Amen. Ah oui, amen. Oui, Seigneur, merci pour tes souffrances à la croix, Père éternel. Merci pour ton sang qui a été versé, qui nous lave, qui nous purifie, Seigneur Jésus. Merci de cette justice qui nous a été donnée, à nous, Seigneur, qui ne le méritait pas. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir déclarés justes. Merci de nous permettre d'aller au Père, à tout moment, à chaque instant. Merci de nous permettre de prendre part à ce plan merveilleux, Seigneur, d'être des témoins de ton amour, Seigneur Jésus. Un jour, on va être avec ces myriades et ces myriades dans le ciel à chanter des louanges et à te dire que tu es digne, Seigneur Jésus. Et tu vas ouvrir ces seaux devant nous, Père éternel. Gloire à toi. Gloire à toi. Seigneur, tes plans sont parfaits. Ta démonstration, Seigneur, est parfaite. Merci de ce que nos cœurs l'ont saisi, Seigneur Jésus. Et merci de ce qu'on a besoin de le saisir encore davantage dans chacune de nos vies. Et tu le fais, Seigneur. Merci de ta fidélité, de ton amour. Merci d'avoir été à la croix. On veut prendre cette coupe et ce pain, Seigneur, dans l'anticipation qu'un jour c'est avec toi qu'on va le prendre. On veut se réjouir, Seigneur Jésus, de ce que c'est accompli, de ce que c'est fait. C'est une célébration, Seigneur Jésus, de ta victoire, de la victoire sur la mort, sur la souffrance, sur le mal. Et Seigneur, on le voit au quotidien, autour de nous, Père éternel. Et on a la certitude, Seigneur, qu'un jour, ça va être derrière nous. Et c'est dans cet esprit-là, c'est avec cette pensée-là qu'on veut prendre ce temps ensemble. On s'unit, Seigneur Jésus, en Église pour te louer, te célébrer, te dire merci. Prendre cette coupe et ce pain, Seigneur, pour ta gloire, dans ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Pour ceux qui ont emporté les éléments, vous pouvez les prendre. On va terminer avec un chant.